Vote pour la science avec Isabelle Burgoyne.
Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Le 2 février est la journée mondiale des zones humides, ce qui nous rappelle l'importance écologique des tourbières, des marais et autres marécages. Il y a 10 ans environ, le gouvernement québécois s'était engagé à protéger les milieux humides avec l'adoption en 2017 de la loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques. Mais les compensations versées par les industries ne suffisent pas à ralentir la protection de ces écosystèmes si importants pour la biodiversité, la protection de l'eau et le climat. Une protection qui recule encore avec l'accélération des délais pour examiner les impacts environnementaux des projets de développement industriel et énergétique à moins de 3 ans. De 2021 et à 2030, la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes invite tous les pays du monde à s'unir pour protéger et restaurer les écosystèmes, dont les milieux humides. Alors, comment freiner la disparition des tourbières et autres marécages ? On en parle tout de suite, ne bougez pas. À Je vote pour la science, nous vous parlons des milieux humides québécois, des tourbières aux étangs et de l'importance de les protéger, mais aussi de les restaurer. J'en parle aujourd'hui avec mes invités. J'en parle avec Audrey-Anne Loisel, stagiaire postdoctorale auprès de la Direction des milieux humides du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques de la faune et des parcs. Bonjour.
Bonjour.
J'en parle aussi avec Alice-Anne Simard, directrice générale de Nature Québec et qui est bolliologiste. Bonjour.
Bonjour.
Donc, les tourbières s'avèrent des milieux aussi importants que des forêts tropicales dans la lutte au changement climatique et à la perte de biodiversité. Mais les milieux humides au Québec manquent d'amour, de préservation et de restauration. Même le petit blongiot, une espèce d'oiseau désigné comme vulnérable, ou la rainette faugrillon de l'Ouest, dont le statut est menacé, ne parviennent pas à freiner les pelleteuses et les grues de développement. Madame Loisel, je vais commencer avec vous. Pouvez-vous nous rappeler c'est quoi concrètement un milieu humide et pourquoi c'est important de les protéger?
Oui, en fait, le terme milieu humide, ça englobe une vaste gamme d'écosystèmes. Donc, on va souvent entendre monsieur, madame, tout le monde parler de swamp. Donc, ça, c'est un terme spécifique qui réfère à un type de milieu humide. Vous avez mentionné des tourbières ou des étangs, c'en est d'autres types. Donc, les milieux humides, ça rassemble les écosystèmes où il y a de l'eau suffisamment longtemps pour influencer le sol et les plantes. Donc, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'eau dans un écosystème que je suis pas dans un milieu humide. Ça, c'est important de le préciser. Et les milieux humides, ça rassemble les étangs, les marais, les marécages, les tourbières essentiellement. C'est les grands types de milieux humides qu'on a au Québec. C'est des écosystèmes aussi, il faut comprendre, qui sont très dynamiques. C'est-à-dire qu'un marais peut devenir un marécage, un étang peut devenir une tourbière. Donc, ils vont bouger, se transformer, leurs limites vont aussi se modifier dans le temps.
Ils sont flous.
C'est ça. C'est ça qui les rend un peu cryptiques et méconnus, c'est que c'est pas aussi simple à identifier qu'une forêt ou un lac. C'est le melting pot de ce qui se passe entre les deux, souvent.
Pourquoi c'est important? C'est justement des beaux endroits mélangés et mixtes.
Bien, ça, c'est un exemple, la beauté, donc l'esthétisme, ça fait partie de ce qu'on appelle les services écologiques. Les services écologiques, c'est les bénéfices que les humains retirent de la nature. Des fois, on va parler aussi de fonction écologique, qui est vraiment ce qu'un écosystème peut accomplir. Quand on parle de services, bien, c'est ce qui est bien pour nous, les humains. Et les milieux humides, c'est les champions en termes de quantité et de diversité de services qu'ils vont nous offrir. Ce qui est le plus connu, je dirais, vous en avez parlé, c'est la régulation du climat. Donc, ça va nous protéger contre les aléas des changements climatiques de plusieurs façons. Ça va stocker du carbone, donc du CO2, qui contribue au réchauffement climatique. Donc, de les conserver, de ne pas les détruire et de les entretenir, bien, ça permet de limiter les impacts des changements climatiques. Mais ça va aussi nous protéger contre les changements au niveau de l'hydrologie qui peuvent survenir. On le voit, là, nos saisons changent, l'hydrologie change, on a de plus en plus d'inondations, de l'irrégularité dans l'hydrologie. Et les milieux humides vont servir justement à régulariser les flux d'eau. Donc, en période de sécheresse, ils vont nous aider à garder de l'eau et à la relâcher tranquillement dans le territoire pour éviter une trop grande sécheresse. Et au contraire, quand il y a trop de pluie ou quand la neige fond, bien, ils vont retenir l'eau. Ils vont aussi en améliorer la qualité. Donc, les plantes et les micro-organismes dans les milieux humides font office d'espèces d'usines d'épuration des eaux naturelles. Mmh. Mmh. Donc, ils nous rendent ce service-là de nettoyage de l'eau, d'épuration de l'eau gratuitement. Mmh. C'est, je dirais, les services qui sont les plus connus. Là, après ça, bon, on peut parler de récréation, d'esthétisme, de support à la biodiversité. Il y a énormément d'espèces, d'oiseaux, de mammifères, de plantes, etc., qui vont utiliser les milieux humides soit pour y vivre, s'y nourrir ou s'y reproduire.
Oui, c'est des services pour nous, mais c'est des services plus larges pour la nature aussi. Madame Simard, quelles conditions devraient être non négociables pour protéger ces milieux dans... On pense surtout aux projets de construction, là. Comment on les protège?
Oui, mais au Québec, en fait, depuis 2017, on a une loi, là, finalement, qui garantit, en principe, l'objectif de zéro perte nette. Ça veut dire de s'assurer que s'il y a une destruction de milieux humides, ben on vient la compenser, mais que à la base, on essaie d'éviter cette destruction-là ou de minimiser les impacts sur les milieux humides. On appelle ça la séquence éviter, minimiser, compenser. Donc, depuis 2017, on a cette loi-là, ce qui fait que, justement, un promoteur doit normalement prouver au ministère de l'Environnement qu'il y a essayer à tout prix d'éviter la destruction d'un milieu humide, et qu'après ça, il a tout fait pour minimiser les impacts de son projet sur un milieu humide. Puis après ça, ben, s'il n'a pas pu éviter cette destruction-là ou en minimiser les impacts, ben là, il doit payer finalement une compensation qui va dans un fonds. Et après ça, l'argent de ce fonds-là, normalement, est utilisé pour faire de la restauration de milieux humides et ou créer de nouveaux milieux humides ailleurs pour compenser cette perte-là, ce qui fait que, donc, justement, dans un monde idéal, on se retrouve avec aucune perte nette de milieux humides parce que les milieux qu'on a perdus, on vient en restaurer d'autres ailleurs ou en créer d'autres ailleurs. Là, je dis toujours théoriquement, en principe, parce que dans les faits, cette loi-là, elle n'est pas suffisamment appliquée de façon suffisamment rigoureuse et le fonds non plus n'est pas utilisé de façon optimale, ce qui fait que ce qu'on observe au Québec, au contraire, c'est beaucoup de pertes nettes de milieux humides.
Oui. Madame Loiselle, je vais vous entendre aussi peut-être sur la loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques qui a été adoptée en 2017. S'appuyer sur ce principe-là d'aucune perte nette des milieux humides, ça veut dire quoi? Et après 10 ans, où est-ce qu'on en est?
Bien, c'est important aussi de rappeler que c'est une modification d'une loi qui existait déjà depuis quand même plusieurs années. Puis c'est vraiment ce qui a changé, c'est le zéro perte nette qu'on est venu ajouter.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Je vous dirais que même au ministère, on est encore en réflexion. Donc, on arrive avec certaines directives pour mesurer ça. Ce qui est écrit dans la loi, c'est qu'on parle de zéro perte nette en termes de superficie et ou de fonction écologique.
D'accord.
Donc, on est venu... dans la façon d'écrire la loi, s'offrir une certaine latitude dans comment est-ce qu'on veut calculer le zéro perte nette. Ça reste que calculer la superficie qui est restaurée ou qui est créée, c'est complexe. Parce que parfois, on va restaurer un milieu humide qui existe déjà. Est-ce que c'est un gain? Et si oui, en quelle proportion? Et il faut toujours comparer à ce qu'on avait.
Ben oui.
Le problème avec le système qu'on a en ce moment, c'est qu'il y a un détachement entre destructeur-restaurateur. C'est-à-dire que le promoteur, par exemple, qui va verser de l'argent dans le fonds, n'est pas responsable de proposer un projet de restauration ou de création. Il faut qu'un autre groupe, organisme ou firme privée ou quelque chose vienne proposer un projet au ministère pour restaurer ou créer un milieu humide équivalent à ce qu'il y a, la banque de ce qui a été perdu. Par contre, dans l'approche qu'on a pour quantifier ce qu'on a perdu, on ne quantifie pas suffisamment bien les pertes en fonction. Fait que c'est difficile après ça de dire, est-ce que j'ai vraiment zéro perte nette de fonction écologique?
Pouvez-vous nous donner un exemple justement de ces fonctions?
Bien, par exemple, on parlait tantôt de dérégulation du climat, mais la fonction, c'est la séquestration du carbone. Fait que quand on détruit une tourbière, bien, c'est un stock de CO2 qui est dans le sol.
Qui est mesurable, finalement.
Oui, qui est mesurable, mais qu'on relâche dans l'atmosphère. Par contre, on le mesure pas. C'est très rare. Moi, j'ai rarement vu ça, un projet qui mène à une destruction, qui mesure ce que l'écosystème accomplissait avant qu'on le détruise. Puis c'est pas mandataire. On n'est pas... exiger de le faire en ce moment.
Okay.
Donc, après ça, savoir quelle quantité on a perdu pour savoir quelle quantité il faut restaurer, bien, c'est flou.
Oui, et donc quand on dit la loi a presque 10 ans, là, 2017, là on est en 2026, est-ce qu'on peut mesurer justement ces pertes? Est-ce qu'on peut parler de pertes? Donc peut-être oui. Madame Simard?
Oui, mais en fait, en effet, on, non seulement on ne mesure pas présentement les pertes de fonction, mais à la base, on est capable de mesurer quand même les pertes en superficie, là, c'est un nombre d'hectares de milieu humide qui est perdu, et ça, on n'arrive pas à venir les compenser, ces pertes-là, déjà, fait que on est encore bien loin de venir même compenser les pertes de fonction quand les pertes de superficie sont même pas compensées. Dans les faits, c'est depuis 2017, là, il y a un peu moins de 3% seulement des milieux humides qui ont été détruits, il y a eu une vraiment compensation de ces pertes-là. Seulement 3%. Donc, il y a des projets qui ont vu le jour quand même depuis 2017, mais ce sont surtout des études préalables à la restauration de milieux humides, par exemple. Mais dans la restauration en tant que telle et la création de milieux humides, dans les faits, il y en a seulement 7 qui ont été réalisés là, depuis 2017. Mais c'est même pas en plus une question de fonds, parce que il y a des millions de dollars qui dorment dans le fonds finalement de compensation des milieux humides. Là. Et l'année dernière, là, les chiffres les plus récents, là, c'est que le fonds cumulait 229 millions de dollars prêts à être utilisés pour la compensation. Mais c'est que il y a plein de d'enjeux finalement avec l'utilisation de ces fonds-là, plein de critères finalement qui sont pas assez flexibles et qui fait que au final, cet argent-là dort dans les coffres.
Oui, le gouvernement a annoncé autre chose. Il parle de réduire drastiquement les délais d'autorisation des projets. Qu'est-ce que ça veut dire sur le terrain, Madame Loisel, quand on réduit le temps d'examen environnemental, par exemple, par rapport à tout ça, là?
Pour
ces milieux humides, on reste dans les milieux humides, évidemment.
Oui, c'est ça. Bien, dans le fond, c'est que chaque fois qu'on veut faire un projet qui vient porter atteinte à un milieu humide, soit en le perturbant ou en le détruisant, il faut demander un certificat d'autorisation au ministère.
Ben oui.
Et ça, c'est des délais qui sont souvent très longs. On parle de mois, voire même d'années quand c'est quelque chose qui est très gros là, comme projet. Mm-hmm. Puis, de la simplification aussi qu'on veut faire, c'est permettre aux gens d'avoir leur permis plus rapidement. Peut-être que Alissa aura plus de détails au niveau politique là, sur ce que ça peut impliquer, mais au niveau environnemental, ça veut dire aussi tourner les coins ronds. Donc, il y a certains éléments qui seraient peut-être moins bien analysés parce que c'est le temps d'analyse aussi qu'on veut accélérer. Ça reste que étudier ce qui se passe dans un écosystème, lire un rapport quand on ne peut même pas aller nous-mêmes sur le terrain, c'est la réalité des gens au ministère, ben là, il faut comprendre ce qui se passe dans cet écosystème-là à travers des pages de texte, puis des petites photos, puis des notes. Fait que ça reste un travail qui est compliqué à réaliser, qui prend du temps. Mm-hmm. Et là, de vouloir accélérer ça, bien, c'est de réduire le temps là, pour processer cette donnée-là et pour vraiment faire une analyse concrète et holistique des projets, des demandes.
Rappelez-nous un petit peu quels ont été les impacts environnementaux du projet Norvolt.
Bien, c'est de la destruction justement de milieux humides là, dans la région de la Montérégie là, finalement. Là. Donc, je n'ai plus les chiffres exacts là, de combien de milieux humides ont été détruits, mais c'est quand même plusieurs hectares, là, surtout dans une région qui en a plus beaucoup, des milieux humides finalement, puis on devrait tout faire pour les protéger. Là.
Oui.
Exact.
Oui, au sud, on n'en a pas beaucoup finalement, donc c'est important. Vous avez travaillé, Madame Loisel, à votre maîtrise sur justement différents milieux humides. Qu'est-ce qui fait que c'est unique de justement prendre le temps de comment mieux les protéger et qu'est-ce que vous avez appris par rapport à ce milieu-là, par rapport à la nécessaire protection et restauration?
Bien, comme vous dites, chaque milieu est unique. Mm-hmm. Donc, à chaque fois.
Parlez-moi de votre milieu d'étude, peut-être.
Bien, moi, j'ai à la maîtrise, j'ai étudié surtout les milieux humides sur l'île de Laval. D'abord,
c'est
bon,
proche.
Oui, mais il faut noter quand même que c'est surprenant la quantité de milieux humides qu'il y a sur l'île de Laval, comparativement à l'île de Montréal, où ça se compte presque sur les doigts d'une main. Mais il y en a beaucoup de petites superficies.
Okay.
Donc, ce qui se passe beaucoup avec l'urbanisation et l'étalement de l'agriculture. Oui, voilà. C'est la fragmentation des milieux existants. Mm-hmm. Et ce que ça engendre, bien, c'est plus de pression dans le pourtour du milieu humide. Donc, ça nuit à l'intégrité des fonctions qui sont accomplies par un milieu d'être fragmenté comme ça. Donc, un grand milieu non fragmenté, c'est toujours préférable à plein de petits milieux morcelés. Puis, ces milieux-là, ils sont présents à proximité de nos milieux de vie. Ils nous offrent des services de proximité dans une certaine mesure. Certains services sont globaux. C'est-à-dire que la séquestration du carbone, mais ça profite à la population globale. Mais la protection des inondations, c'est local. Il faut des milieux humides à proximité, il faut des milieux humides à proximité dans le même bassin versant en amont de là où on réside pour qu'on puisse bénéficier de ce service-là. Et comme disait Alissane, ben dans la région où l'entreprise Nordvolt voulait s'installer, ben il y en a presque plus. Donc la pression sur ceux qui restent est immense et leur importance est d'autant plus augmentée. Et tu sais, pour donner quelques chiffres, là, mondialement, là, les études les plus fiables qu'on a nous disent qu'on a perdu à peu près 21% de la superficie mondiale des milieux humides. C'est sûr que c'est, on se dit, oh mon Dieu, ça pourrait être pire, mais quand on regarde par région, ça se complexifie. Dans les basses terres du Saint-Laurent, on est plus autour de 40-45%. Et dans la grande région de Montréal, c'est 90-98%
de pertes.
Donc, c'est sûr que dans les grands centres urbains, cet impact-là va se faire sentir. Puis on a des études qui nous montrent aussi de quoi est-ce qu'on aurait besoin en superficie pour faire face aux aléas des changements climatiques. Puis, je pense à une étude en particulier qui a regardé ça dans le bassin versant de la rivière Saint-Charles, dans la région de Québec, et sont arrivés à la conclusion que dans certaines zones, on a besoin de 200% de gains en superficie de milieu humide. C'est énorme. Donc, non seulement il faut arrêter d'en détruire, mais il faut en recréer qu'on a enlevé si on veut faire face aux aléas des changements climatiques.
Madame Simard, quel est le principal risque pour les milieux humides, la réduction des délais des autorisations gouvernementales, environnementales à moins de 3 mois? Est-ce que vous avez des exemples, justement, où la rapidité a mené à des pertes irréversibles?
Oui, justement, comme on en a parlé, il y a vraiment le dossier de Nordvolt qui est un exemple récent, mais c'est ce qu'on... Oui, en effet, le gouvernement là veut adopter une loi pour accélérer finalement l'évaluation de certains projets qu'il va juger prioritaires, par exemple. Mais pour nous, on craint de voir se reproduire justement la saga Nordvolt où est-ce qu'on aura des projets qui vont être accélérés, qu'il y aura des milieux naturels, des milieux humides qui vont être détruits, puis qu'au final, ben, on se retrouve avec des éléphants blancs.
Oui, dans la région de Québec, peut-être?
Ben, ça peut être dans la région de Québec, ça va être partout au Québec. Là. Au final, là, ces projets-là peuvent... pour l'instant, on ne sait pas quel projet pourrait être jugé prioritaire, mais une fois que la loi s'est adoptée, là, il y a certains des projets-là qui vont pouvoir l'être. Mais je veux quand même, avant qu'on quitte, quand même, pour moi, c'est important de parler de solutions aussi.
Oui, oui, on y va.
C'est quand même décourageant là, de tout ce qu'on dit, mais pour moi, c'est important de dire aux gens qui nous écoutent qu'il y a quand même des solutions, puis il y a des choses qui peuvent être faites quand même pour régler les problèmes. Là.
Il y a toutefois au Québec des initiatives, dont une mobilisation pour la restauration des milieux humides à l'appel de Canard Illimité Canada, qui réunit tous les volontaires, organismes porteurs de projets, propriétaires et même citoyens dans la sauvegarde de ces écosystèmes un peu plus mal aimés. Madame Loisel, que dit la recherche sur la capacité des milieux humides à se restaurer après la destruction?
Bien, c'est sûr qu'il faut comparer ce qu'on appelle de la restauration active et de la restauration passive.
D'accord.
La restauration passive, c'est qu'on va laisser l'écosystème revenir par lui-même. Donc, on va soit retirer une perturbation puis laisser les choses se faire par elles-mêmes. Ça va fonctionner dans des écosystèmes qui sont plus dynamiques. Par exemple, dans la plaine inondable du lac Saint-Pierre, vu qu'on a des écosystèmes dynamiques, on a une connectivité hydrologique. On a aussi une connectivité au niveau des semences qui vont arriver et qui vont permettre aux plantes de venir recoloniser un site où on aurait retiré de l'agriculture, par exemple. Mais dans certains écosystèmes, comme les tourbières, si on fait juste arrêter la perturbation comme l'extraction de la tourbe, ben le retour ne se fera pas. Puis on a beaucoup de données d'études, c'est probablement les écosystèmes qu'on a le plus étudiés en restauration, les tourbières, qui nous disent qu'on a besoin de faire de la restauration active. Donc, c'est toujours un choix qu'on doit faire. Mais la restauration active, c'est pas simple. C'est une science qui est très complexe, qui est beaucoup plus avancée dans d'autres pays comme les États-Unis ou la France qu'au Canada ou au Québec. Donc, on peut étudier nos voisins dans d'autres pays pour voir comment ils ont fait, mais souvent, on constate par les méta-analyses que ça ne marche pas très bien.
Non, on ne connaît pas tous les dessous de ces milieux.
On ne connaît pas tous les dessous, mais aussi c'est qu'on se rend compte que ça prend extrêmement de temps. Donc, pour que les fonctions reviennent, on parle de... Ça peut prendre juste 5 ans comme ça peut prendre 100 ans avant qu'on rétablisse les fonctions des écosystèmes. Chaque fonction ne se restaure pas à la même vitesse non plus. Mm-hmm. Chaque composante de l'écosystème ne réagit pas de la même façon. Donc, c'est pas une science exacte. Il n'y a pas de livre de recettes sur comment on fait de la restauration. Ouais. Mm-hmm. C'est un rêve, une utopie qu'on aimerait avoir au Québec, là. Mais la réalité, c'est que c'est du cas par cas. On le disait tantôt, chaque milieu humide est unique. Bien, ça rend la tâche de restaurer puis de créer des milieux humides extrêmement complexes.
Entendu. En mode solution, Madame Simard, qu'est-ce que vous auriez à rappeler aux décideurs à propos des milieux humides dans ce débat? Ça serait quoi? Oui. Est-ce qu'il faudrait...
Oui, il faut vraiment donner plus de mordant à la loi. Mm-hmm. Là, on est bientôt, finalement, on arrive bientôt à 10 ans là, depuis l'adoption de cette loi-là. Faut faire le constat que ça ne fonctionne pas, que ce qu'on voit sur le terrain, c'est une perte importante de milieux humides, que les fonds dédiés à la compensation ne sont pas utilisés adéquatement. Donc, à la base, il faut s'assurer que les promoteurs sont réellement obligés de respecter l'ordre, éviter, minimiser, compenser. Il faut qu'il y ait des balises strictes et on pourrait avoir un fonctionnement où ce sont les promoteurs qui sont responsables de réaliser eux-mêmes les projets de compensation. C'est le cas, par exemple, là, pour la loi sur les pêches au fédéral. Mais on pourrait aussi, sinon, avoir, si c'est pas les promoteurs qui sont responsables de cette compensation-là, au moins venir alléger les critères pour permettre aux MRC, aux municipalités ou aux organismes de venir utiliser les fonds pour absolument trouver une façon d'accélérer finalement les projets de compensation. Mais avant tout, nous à Natura-Québec, on est d'accord que la compensation, il faut absolument que ce soit le dernier recours et qu'il faut s'assurer avant tout que dans la loi, c'est bien écrit, bien obligatoire, que on évite à tout prix la destruction des milieux humides, on minimise le plus possible les impacts aussi avant tout, parce que au final, tant que la destruction ça reste l'option la plus simple, puis que la compensation elle reste théorique, ben les milieux humides vont juste continuer à disparaître comme c'est le cas actuellement. Là.
Oui, Madame Loisel, pourquoi les fonds ils s'accumulent dans les coffres?
Ben il y a plusieurs raisons. L'une d'entre elles, c'est la difficulté de trouver des experts en restauration. Vous avez parlé de Canard Limité. Mm-hmm. Ben là, justement, le programme de mobilisation qu'ils ont lancé, c'est en partenariat avec le ministère. Puis le but, c'est d'outiller les gens pour qu'il y ait plus de gens qui soient outillés pour faire de la restauration. Je l'ai dit, c'est très complexe.
Informés,
c'est une science.
Aussi, ils ont des formations et tout ça.
Oui, c'est ça. Puis ces formations-là ont été... validé par des experts de toutes sortes de domaines parce que c'est une science multidisciplinaire, la restauration. Oui. Ça prend un biologiste, ça prend un aménagiste, ça prend un urbaniste, ça prend un hydrogéomorphologue, ça prend toutes sortes de gens pour réussir à faire des projets comme ça. Donc, c'est de trouver cette expertise-là qui est en train de se développer au Québec. Dans certains domaines, on est bon, comme les tourbières, pour certains mm-hmm. types de marais aussi, on n'est pas pire, mais il y a d'autres écosystèmes pour lesquels c'est plus difficile. Le deuxième élément, c'est savoir où aller. On ne peut pas restaurer ni créer un milieu humide n'importe où. Non. Il faut que les conditions soient propices pour que l'eau s'accumule et modifie le sol et les plantes, comme je disais tantôt. Donc, ce n'est pas partout qu'on peut faire de la restauration. Et il faut le faire à des endroits stratégiques. Donc, il faut évaluer à l'échelle du territoire où sont les besoins prioritaires pour que les fonds soient utilisés au bon endroit. Un autre élément qui fait que les fonds ne sortent pas, c'est le faible effectif de gens qui sont attaché à l'évaluation de dossiers au ministère. C'est malheureux, mais on est dans une ère politique de coupure et donc il y a de moins en moins de gens au ministère qui sont associés à l'évaluation de ces dossiers-là qui, selon la majorité des gens, je crois, devraient être une priorité. Donc, c'est aussi un limitant majeur, le manque de gens qui vont venir analyser ces dossiers-là. On ne peut pas les créer, ces projets-là, s'ils ne sont pas approuvé. Puis je dirais le dernier élément, c'est aussi la réglementation. C'est un chantier, c'est un patchwork, je dirais. Parce qu'on ne vient jamais défaire les règlements existants, on les modifie, on fait des addendums, etc. Ça, et il y a des règlements différents.
Les choses, ouais.
C'est mm-hmm. ça, tu sais, on ajoute des couches de complexité. Fait que là, réussir en tant que praticien de la restauration à naviguer dans quelle étude préliminaire je dois faire, quel règlement je dois m'assurer que je respecte, etc., c'est compliqué.
Mm-hmm.
Puis c'est un élément qui est très limitant. Puis je voudrais ajouter aussi, tu sais, je pense que ce détachement-là qu'on a, ce système en lieu de, donc le destructeur n'est pas responsable de la restauration, comme disait Alison, c'est un système qui ne fonctionne pas.
Oui,
parce qu'on n'a pas de délai minimum qu'il faut respecter pour faire la restauration. Il y a deux autres approches qui existent. La première, c'est des banques de compensation. Donc, il faut faire de la restauration puis la création avant même de faire des projets pour avoir une banque de superficie après ça qu'on peut venir perturber. On est un peu trop tard là, pour qu'on se dirige vers là parce qu'on est déjà en déficit d'hectares. Et l'autre système, c'est de rattacher, comme dit Alison, le promoteur à la restauration. C'est déjà possible, mais de façon volontaire. C'est-à-dire que la personne qui est responsable de destruction peut dire, ben moi, dans ma demande, j'ajoute une compensation intégrée. Je vais compenser pour mes pertes directement dans mon projet. C'est possible, mais vu que c'est pas obligatoire, et considérant la complexité que ça représente de le faire, ben c'est pas très souvent utilisé.
Oui, Madame Simard, le mot de la fin rapidement, en mode solution, est-ce qu'il y a une place pour les citoyens et les citoyennes aussi? Concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire?
Bien sûr, évidemment. Ben, déjà, des fois, il y a des citoyennes qui peuvent avoir des terrains avec des milieux humides dedans. Il y a toutes sortes de panoplies d'outils finalement de conservation en temps privé qui peut aider déjà. Pour M. Madame tout le monde qui n'aurait pas de milieu humide, tu sais, on peut quand même interpeller nos élus, que ce soit au niveau municipal, mais au niveau du gouvernement aussi, pour les inviter finalement à mettre en place des politiques, des législations là, qui vont avoir plus de mordant justement, qui vont nous aider vraiment à protéger les milieux humides, puis en parler autour de soi tout simplement là, vraiment nous ou soutenir des organisations là qui travaillent sur ces dossiers là justement, puis se renseigner justement comme les gens le font en nous écoutant, là.
Oui, et puis y aller peut-être aussi, ne pas avoir peur de mettre ses pieds avec des bottes, bien sûr, au milieu des milieux humides. Il y a des endroits comme le lac Saint-Pierre, là où on peut aller sur les îles et visiter. Donc, je vous remercie beaucoup. On était en compagnie d'Alice Anne Simard, directrice générale de Nature Québec, et d'Audrey-Anne Loisel, stagiaire postdoctorale auprès de la direction des milieux humides du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques et de la faune et des parcs. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci.
Au revoir.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vote pour la science. C'est une production de Science Presse avec Radio-VM. À la régie, Daniel Fortin. À la recherche, cette semaine, Fanny Robartcher. À la réalisation et le micro, Isabelle Burguin. Si vous avez aimé l'émission, partagez-la. Vous pouvez suivre aussi la page de Je vote pour la science sur le site de Science Presse. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une très très belle semaine à notre antenne.
Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique.